ou au contraire, si la population vieillit, quelles sont les incidences politiques et géopolitiques ?
Alors, beaucoup d'exemples. D'abord, je voudrais rappeler un élément historique, et tout simplement 1968. 1968, donc c'est une période où les jeunes se mobilisent dans tous les pays occidentaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se mobilisent quel que soit le système universitaire des pays. C'est-à-dire que soit la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada. C'est-à-dire qu'on a un effet de génération. Et effectivement, 68 a correspondu au moment historique où le poids relatif des générations de jeunes étudiants était le plus important. Donc c'est là que je démentirai un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure sur la question de la Tunisie. Lorsqu'on regarde la pyramide des âges de la Tunisie, très clairement, la phase historique où les 20-29 ans sont relativement les plus nombreux dans l'histoire démographique de la Tunisie, c'est la période 2010-2015. Donc à partir du moment où vous aviez une population tunisienne qui était maintenue dans une cocotte minute, ça devait sauter. Moi, j'ai toujours considéré que ça allait sauter en Tunisie. Je ne comprends pas l'aveuglement qu'il y a eu à ce sujet. Et compte tenu du contexte démographique, ça devait sauter dans cette période historique. J'étais pas capable de vous donner la date exacte, évidemment, de la révolution tunisienne. Par contre, je pouvais vous dire que la révolution tunisienne, elle allait se faire entre 2010 et 2015. Il suffit de regarder la pyramide des âges, c'était absolument acquis. Sauf, évidemment, comme je l'ai dit, si Ben Ali connaissait la géopolitique des populations. Auquel cas, il aurait fallu que son régime... Non, il la connaissait pas. Son régime fasse un certain nombre de réformes pour permettre effectivement à cette jeunesse d'avoir un certain nombre de libertés.
Dans le dossier, on évoque Malthus. Et Malthus avait trouvé la solution pour réduire la pauvreté, c'était que les pauvres ne se reproduisent plus.
Non, simplement...
C'est pas une idée bête.
Je vous rappelle quand même que Malthus est quand même 1798. Et le paradoxe historique, c'est que Malthus écrit son livre où il demande qu'on applique la contrainte morale. Parce que Malthus n'était pas du tout pour les méthodes de contraception. Il fallait éduquer les populations pour les empêcher d'avoir des enfants. Je vous rappelle que Malthus aussi, son livre, c'est une réaction à la loi des pauvres. Il y avait donc en Angleterre une loi qui aidait les pauvres, une sorte de RMI de l'époque, si vous voulez, ou de RSA, puisque le nom a changé de l'époque. Et Malthus disait, ah bah oui, mais si on verse le RSA au RMI, eh bien, les pauvres vont avoir des enfants et ça va multiplier les pauvres. Donc son livre, c'est un livre totalement réactionnaire. Et son livre réactionnaire, ça consiste à dire, bah, faut empêcher les pauvres d'avoir des enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce livre est publié en 1798, c'est-à-dire au moment même où vont s'effectuer des progrès techniques phénoménaux qui vont complètement démentir la pensée de Malthus. Puisque la pensée de Malthus, je vous rappelle, c'est d'une part le risque d'une croissance arithmétique des ressources, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8, 10, 12, et d'une croissance géométrique de la population, c'est-à-dire 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Et effectivement, si ça avait été le cas, Malthus a forcément raison. S'il n'y a pas assez de production vivrière sur un territoire, eh bien, la population, inévitablement, n'a pas les moyens de manger et forcément connaît une surmortalité. Or, si vous regardez donc les courbes depuis l'époque, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Donc, on a eu plutôt une croissance géométrique des productions vivrières.
Serge Alimi ?
On évoque dans le dossier la réponse de Pierre-Joseph Proudhon à Malthus, qui tient en une phrase et qui dit « Il n'y a qu'un seul homme de trop sur Terre, c'est Monsieur Malthus ».
On continue avec le diplôme de ce mois de juin, on va continuer dans la démographie et on va aller en Russie avec Philippe Descamps qui donne un grand papier sur un phénomène qui dure déjà depuis un certain temps, qui est la réduction de la population en Russie.
Ah oui, alors ce qui était intéressant avec la Russie, c'est qu'on a une préfiguration de ce que pourrait être un hiver démographique, c'est-à-dire un déclin démographique que l'on ne contrôlerait pas et qui aurait des conséquences très importantes. Et on a aussi avec la Russie un exemple de corrélation forte entre l'histoire, la vie économique, la vie sociale, la vie politique et ses conséquences démographiques. Alors, on constate depuis l'effondrement de l'Union soviétique une baisse de la population, une baisse importante. Si on comptait le solde naturel, c'est-à-dire les décès et les naissances, on a eu 13 millions de cercueils de plus que de berceaux.
Depuis
20 ans. Alors, ça a été ça a été compensé en partie par l'immigration, notamment le retour des Russes qui étaient dans les anciennes républiques sœurs, mais ça n'a pas suffi et la population a baissé de